La musique que nous entendons en ce moment, c'est vous qui nous l'avez amenée. Et c'est un orchestre que vous avez entendu lorsque vous étiez, vous, en Amérique du Sud, il y a de cela quelques années.
C'est Juan Eco y su combo. Je ne l'ai entendu pas en chair en os parce que tout le groupe est mort dans un accident d'avion peu de temps avant. C'est le groupe mythique des années 70 dans toute la forêt péruvienne. Mais c'est vrai que c'est la première musique que j'ai écoutée, que j'ai entendue en arrivant dans la forêt, dans un village indigène, chez les Harangbut. Le soir, c'était un soir de fête, on buvait du masato, de la bière de manioc, et puis ils passaient ce disque. Toute la nuit, ils ont passé ce disque sans arrêt, sur un vieux tour de disque à pile.
Et alors, sur l'image qu'il y a, que vous m'avez remise, l'orchestre était habillé avec les
déguisé
vêtements...
Déguisé en indien, comme sur certaines photos de la baronne aussi. Enfin, des photos qu'elle a achetées, parce qu'elle a fait des photos, elle en a acheté en cours de route. C'est des photos typiques, je veux dire, on déguise des indiens pour les faire apparaître encore plus sauvages, peinturlurés et méchants qu'ils ne le sont.
Alors Alain Meunier, racontez-nous un tout petit peu comment s'est passée la réalisation de cette exposition. On vous confie cette tâche. D'abord, premièrement, l'ethnologue que vous êtes...
On me confie Anne.
En plus, on vous confie Anne, voilà. Juste une petite précision. Quand on vous confie de faire une exposition sur la baronne...
Mais c'est ma première exposition. Moi,
c'est votre première exposition.
Très innocent, je le suis toujours, parce que ça a bien été.
Alors, quels étaient les problèmes qui sont apparus pour vous en premier? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je lis d'abord tout? Est-ce que je regarde tout? Comment on affronte la réalisation d'une première exposition?
Le problème, c'était, bon, d'une part, il y avait des photos. Que faire avec des photos? On peut les mettre côte à côte, bêtement, ça ne valait pas tellement la peine. Et puis, une autre chose, c'est très belle salle du musée d'ethnographie qui sert aux expositions temporaires, qui est un tunnel, un sombre tunnel. Et alors voilà, il y avait ces deux premières contraintes finalement que nous avons essayé de résoudre avec Anne, que nous avons résolues.
Alors racontez-nous un petit peu tous les deux. Moi, je ne sais pas très bien par quel bout commencer, mais comment ça se passe quand justement il s'agit de collaborer pour d'une part faire passer un certain contenu, faire découvrir en l'occurrence le regard d'une personne qui n'est pas du tout ethnologue, donc qui va sur place puis qui raconte ce qu'elle voit et qui prend des photos, en quelque sorte souvenir de voyage de noces, nous l'avons dit. Et puis vous avez l'intention de montrer ce regard pour en faire un nouveau regard d'ethnologue, c'est-à-dire un nouveau discours, une nouvelle façon de découvrir.
Un regard un peu ironique aussi, peut-être.
Oui, ça, j'imagine bien. Alors, comment, avec cette préoccupation, se passe la rencontre avec toi, Anne, qui est censée donner justement l'aspect visuel de l'histoire?
Mais je pense qu'il y a toute une étape, qui est une étape un petit peu de rencontre, justement, où Alain me... Ouais, essayer de me faire partager en fait tout ce qu'il connaît sur cette baronne, parce qu'en fait lui, je me suis assez vite rendu compte qu'il était assez proche de cette baronne, parce qu'il est allé un petit peu à la découverte et très curieux, comme ça, de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle pensait.
Dans sa maison.
Ouais, il est allé rechercher ses souvenirs, etc.
Donc quand même un travail sur le terrain.
Oui, oui.
On disait tout à l'heure, il n'y en a pas.
C'était un terrain très dur, parce que la maison est habitée par des bonnes sœurs, maintenant.
Ah voilà, oui, ah oui, c'est ça, j'ai lu quelque part que la maison avait été vendue après la Révolution russe, la famille a dû partir.
Bon, donc la Révolution russe avait du bon, mais malheureusement, c'est les bonnes sœurs qui ont repris la maison.
Mais elles vous ont quand même laissé entrer pour
très sympathique.
Baigner un petit peu dans l'atmosphère de la vie de la baronne.
Oui, tout à fait.
Elles savaient que la baronne avait vécu là ?
Oui, c'est une espèce de légende hagiographique, un peu, cette histoire de la baronne. Elle parle de la princesse russe, pas de la baronne russe.
Ah voilà.
Enfin, du prince, son père, du prince Volkonsky. Il y a une petite photocopie d'un livre sur le père de la baronne qui trône sur le bureau.
L'hommage au premier propriétaire. Mais donc, Anne, tu as découvert, toi, l'histoire de la baronne au travers du récit que t'en as fait Alain Monnier.
Tout
tu
à
t'es
fait.
Toi-même pas plongée dans le journal de bord, etc.
Si, parce que, bon, j'ai commencé par l'écouter. C'est vrai qu'en même temps que l'histoire de la baronne, il y a aussi eu en même temps les références directes d'Alain Monnier, c'est-à-dire ce qu'il aime. Il a commencé à me parler de...
J'ai commencé par l'inviter à manger.
C'est vrai. On a commencé par un borscht. C'était la première rencontre.
Qu'est-ce que c'est qu'un borscht ?
C'est une soupe russe.
Ou ukrainienne, pour ne pas...
Voilà,
ouais. Pour être...
Mm-hmm. C'était délicieux.
Avec ces personnes.
Alors déjà, d'aller chez Alain Monnier, c'est déjà...
Une épreuve.
C'est déjà tout à fait particulier. Parce que son appartement... Et avec tous les objets qui l'entourent, c'est déjà rentrer dans un monde qui est complètement extraordinaire. Alors je pense que ça fait partie aussi de tout ce qu'il faut arriver à comprendre pour ne pas trahir le...
Et de ce dont il a fallu se débarrasser.
Absolument. Alors dès le début, on comprend un petit peu le type de personnage, et puis il va falloir à la fois être complice, puis à la fois arriver à ne pas se laisser trop envahir, parce qu'autrement ça risque d'être une catastrophe. Donc c'est tout ça. Alors chacun pose un peu ses marques, on découvre l'aventure de la baronne, et puis petit à petit on a travaillé ensemble, c'est-à-dire
mais
moi
ça
je...
se fait assez tout
ouais,
seul,
c'était sans, c'est vrai que ça a été très simple en fait, j'ai eu l'impression que c'était très simple quand parce tu... qu'on s'est pas on n'a pas travaillé l'un contre l'autre quoi, on a vraiment moi mon intérêt c'était vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il avait envie de dire puis d'essayer de trouver des solutions pour le dire de façon la plus proche de ses désirs possibles et puis voilà, et puis en fait, on s'est assez vite mis d'accord.
Donc c'est ce que tu appelles poser ses marques. Par exemple, Alain Monnier, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit, de ce qui vous paraissait essentiel, que vous aviez absolument envie de transmettre à propos du regard de cette baronne russe et de son voyage, dont il fallait absolument qu'elle tienne compte quand elle allait imaginer la mise en espace de l'exposition.
Oui, bon, la baronne a été un peu secondaire. Ce que j'avais envie de faire, c'était, avec ses photos, de faire plutôt du cinéma que de la photo, mm-hmm. les mettre un peu en mouvement, mm-hmm. de faire une sorte de film muet. Bon, c'est une période du cinéma que j'aime beaucoup. C'était un peu ça, mon point de départ. Mm-hmm. Alors, bon, bien sûr, j'ai accumulé... noyer un peu Anne de références cinématographiques, qui allait jusqu'à Tati d'ailleurs, pas seulement au muet.
C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on part, étonnamment après, en fait, on part dans des domaines qui peuvent être complètement différents de celui qu'on traite, parce qu'effectivement il y a des références qui peuvent être très très éloignées.
Et qui sont plus là, qui sont vraiment voilà. loin derrière, mais qui n'ont plus besoin d'être là, évidentes.
En fait, c'est une toile de fond dont j'ai besoin, moi, pour me rapprocher de sa façon de voir cette aventure de la baronne. Et qu'après, moi aussi, une fois que j'ai digéré en fait, toutes ces références-là, si le travail est réussi, elle devrait passer, mais de façon complètement... mystérieuse pour les autres, c'est-à-dire que nous on sait où elles sont ou bien on les pressent comme ça, mais ça ne devrait pas paraître. Par contre, l'exposition, on devrait la sentir tous les deux dans ce qu'on a vraiment voulu dire. Voilà.
Vous disiez tout à l'heure, Alain Meunier, qu'il y avait aussi le regard ironique. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez posé sur la table comme marque importante, dont Anne devait tenir compte quand elle imaginait l'espace ?
Non, je ne crois pas que je l'ai dit. C'est moi qui suis comme ça.
Je crois qu'on peut difficilement s'empêcher, quoi.
Oui, puis en plus, le sujet prête assez...
Je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut essayer de pas non plus passer à côté des personnages, parce que je crois que c'est vraiment une exposition de personnages. Je crois que ça faisait partie aussi du défi, c'est de pas fausser ça, de pas rendre un travail ethnographique plat alors qu'il est effectivement montré par quelqu'un qui est en lui-même un personnage, je dirais, pour moi aussi fort que celui de la baronne.
Alain Meunier donc,
oui, je parle d'Alain Meunier. Donc d'accord. C'est vrai que cette exposition, c'est aussi la confrontation de personnages. Et moi, j'ai aussi envie de dire ça, j'ai envie que ça se voit. Mmh. Et c'est vrai que dans l'exposition, il y a des interventions de différents personnages. Et je crois, dès le début de l'exposition, qui démarre par un générique avec une espèce de présentation de ces personnages, il y a en fait cette idée que ces personnages vont voyager avec nous. Et moi, j'ai eu envie de les regarder voyager. Et Meunier, il est dans l'histoire. À un certain moment, il intervient avec des poèmes qui sont tout au long de l'exposition, où là, tout le côté ironique ressort de façon très évidente. Et donc, pour moi, il intervient à côté de la baronne, comme un personnage.
Qui fait partie du voyage.
Qui fait partie du voyage, tout à fait.
Donc, on confronte votre regard et celui de la baronne un petit peu.
Oui, c'est ça.
Parce que quand on disait tout à l'heure regard ironique, c'est vrai que c'est difficile de faire presque autre chose, mais on aurait pu faire quelque chose de très critique. On aurait pu dire, mais regardez comment cette
tout
femme osait parler des Indiens à cette époque-là. Et ce n'est pas du tout le parti pris que vous avez choisi.
Non, on n'a pas voulu insister. Maintenant, c'est tellement évident. Puis c'est tellement évident, et si les gens ne s'en rendent pas compte...
Je pense que ce n'est pas évident du tout. Moi, je pense que ça, c'est effectivement, ça fait partie du personnage d'Alain Meunier. Je pense que la plupart des gens auraient fait une exposition tout à fait critique sur les pauvres Indiens d'Amazonie, sur leurs conditions par rapport à aujourd'hui... Et puis je pense que justement d'avoir assez d'ironie et de distance et de sens de l'autocritique pour arriver à avoir un discours qui est à mon avis très neuf à ce niveau-là, c'est de pas tomber dans ce cliché de l'ex-68ard, mais d'arriver à avoir...
Que j'ai été, quoi.
Sûrement, mais bon. Je pense que là, c'est vraiment un des intérêts de l'exposition, c'est qu'il n'y a pas cette dimension-là qui, effectivement, commence à être un petit peu...
Oui, parce qu'en fait,
fatigant.
Dans l'exposition, il y a les textes de la baronne ou ceux de l'accompagnateur, de l'interprète. Ouais. Et puis, il y a vos poèmes. Il n'y a pas d'autres commentaires d'aujourd'hui,
non.
Si on peut dire.
Non, absolument.
Alors, ça, c'était un choix très, très, très évident de votre part, Alain Meunier.
Oui, tout à fait.
Vous ne vouliez pas décoder le regard de la baronne pour les visiteurs de l'exposition.
Non, ni décoder le regard de la baronne, ni décoder, parce que bon, il y a aussi des objets indiens, ni décoder ethnographiquement les objets indiens en faisant quelque chose de didactique. Non, non. C'est...
Ni les objets rajoutés qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent.
Non, on appelle ça les objets de la cuisine d'Alain Meunier. C'était toujours l'angoisse pendant l'exposition, on se disait, est-ce qu'il va encore prendre quelque chose dans sa cuisine pour le mettre dans l'exposition ?
Alors ça, chères auditrices et auditeurs, vous le découvrez vous-même, il y a un petit concours au musée, vous devez compter le nombre d'objets ayant appartenu à Alain Meunier et non pas au peuple
indien.
Oui, il y a un petit parcours proposé aux jeunes visiteurs, mais on aurait pu rajouter cette question. Hein. Lesquels appartiennent à Alain Meunier ? Je suis sûre qu'ils auraient tout trouvé. Alors, bon, Anne, là, à un moment donné, donc, il y a cette transmission de vision, de connaissances, de point de vue, de personnalité, etc. Et puis, il y a un moment donné où tu te mets au travail très concrètement. Alors, on a parlé d'autres expositions que tu as réalisées, les beaux restes dont la dernière exposition du musée, l'annexe du musée de Conches, auquel tu avais participé, qui était assez compliquée au niveau du symbolisme et tout ça. Là, un tout autre choix.
Le symbolisme, c'est un gros mot.
Bon.
Des mythes.
Et là, tu as fait un autre type de choix, de toute évidence, pour embarquer le visiteur à travers ou dans le regard de tous les personnages de cette aventure. Alors, qu'est-ce qui guide ton choix, là ? Il faut qu'on soit pris dans la réalité, quelque part.
Mais quelque part, c'est une réalité qui est justement un peu au deuxième degré, c'est-à-dire essayer d'éviter à tout prix là, de nouveau la reconstitution.
Qui n'est pas une réalité, non.
Mais effectivement. Non. Mais là, tout en, ouais, en étant plus... Comment dire, plus anecdotique dans le côté ironique, je dirais. C'est-à-dire qu'au lieu d'éviter complètement tout le côté amazonien, ben, on est allé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a joué un petit peu avec les différents thèmes. On a joué avec la forêt, avec les Indiens, avec le bateau. Il y a tous les éléments.
On descend.
Voilà, alors, en plus, le fait que la salle, en fait, est en fait cette disposition tout à fait ingrate d'une espèce de long couloir, c'était un petit peu un défi de dire, bon, puisqu'on a un couloir, on va en fait aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser ce couloir, l'idée, c'était d'enlever toutes les séparations qui étaient présentes pour créer effectivement une seule pièce qui est en fait séparée par des éléments qui sont des sortes de voiles mais qui gardent en fait une transparence. C'est-à-dire qu'on a une seule pièce qui est en fait transformée par un plancher qui est plus ou moins en pente. C'est-à-dire qu'il y a une descente dans la forêt, donc on commence par descendre. Puis après une passerelle.
On commence par monter
d'abord. On part de l'humain et on monte.
Voilà, on monte, on descend ensuite. Il y a tout un jeu sur le sol, qui était à peu près qui était en fait l'élément sur lequel je pouvais jouer. Et puis bon, un des défis, ça a été de montrer des photos de façon un petit peu différente. Parce qu'effectivement, les photos, moi, quand j'ai eu le travail au début, je me suis dit, mais quelle catastrophe, des photos à part. Dans des sous-verres accrochés les unes à côté des autres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est vrai que c'est pas du tout évident. J'avais pas très envie de faire des immenses agrandissements posters parce que je trouvais que c'était un petit peu détourné aussi la vision de la baronne. Donc l'idée était retenue de faire des sortes de tableaux. Et puis on a travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire que on a plus tourné autour de l'histoire elle-même, le voyage de la baronne, pour reconstituer des tableaux qui correspondaient à des périodes de son voyage. Donc les photos sont disposées, plusieurs photos dans un tableau.
Ouais, chaque tableau est aussi une petite histoire.
Voilà.
Et en plus, on est comme sur une sorte d'étage. Il n'y a pas non plus un circuit aller-retour, quoi. On va et on arrive, quoi.
Tout à fait. Sorte. Bon, là, c'est toujours l'idée de mettre un petit peu le spectateur dans une position qui n'est pas tout à fait stable. Alors, déjà par le sol, mais aussi par, effectivement, l'itinéraire de l'exposition, qui est un petit peu, qui suit ce voyage. Donc, ça le met en position un peu, comment dire, dynamique. Et c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de chercher ça plutôt qu'un regard complètement...
Amorphe.
Ouais, amorphe.
Je pense qu'il y avait aussi un autre obstacle à surmonter, qui était celui de la lecture, parce que la baronne a écrit le journal de bord. Vous aviez certainement envie d'en transmettre quelques extraits savoureux aux visiteurs et visiteuses. Alors, mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de textes dans l'exposition.
Enfin, il a fallu. Oui, c'était bien de se restreindre, alors, parce qu'il ne fallait pas noyer non plus. Les photos par le texte, puis finalement ce texte est relativement répétitif aussi. Je veux dire, une fois qu'on a sorti quelques thématiques, bon, elles reviennent d'une manière presque obsessionnelle, même chez la baronne, dans les moments où ça va mal pour elle. Donc c'était un peu justement dans cette pensée du cinéma muet, comme des intertitres, non, entre certains épisodes, certaines séries, certaines séquences, juste un petit quelque chose comme ça.
Il y a des choses dans le voyage de la baronne qui frappent quand même. C'est effectivement la confrontation avec la forêt et les dangers ou les beautés de la forêt. Il y a la rencontre avec les Indiens. Et puis il y a le retour à la civilisation qui peut-être disons-en, c'est ça, quelques mots. C'est donc le boom du caoutchouc à l'époque en Amazonie. Donc quand la baronne est enfin arrivée de l'autre côté, donc elle a passé de la rive pacifique à la rive atlantique de l'Amérique, c'est ça?
Oui.
Eh bien, elle débarque dans des
son
villes
cœur
comme
fait
Manas.
Boum.
Ça, c'est le personnage à la manière. Et donc, elle est vraiment dans un moment, entre guillemets, historique. Elle ne mesure peut-être pas, mais nous, aujourd'hui, on sait que c'est un moment important qui a beaucoup transformé la
Non, mais quand je dis que son cœur se boum, à ce moment-là, elle est obsédée par la sexualité. Elle ne parle que de ça, que des mœurs dégénérées. Des tortues à mon couvert, oui.
Non, mais c'est parce qu'Amonie est bien décortiquée.
Non, et puis elle est horrifiée parce que qu'est-ce qu'elle découvre, le boom du caoutchouc, mais le boom aussi de la syphilis, hein, pour elle, c'est totalement lié. Dans ces villes, Manaus, Iquitos, pour elle, toutes les femmes sont des prostituées, tout le monde est atteint de syphilis. Enfin, c'est le retour à la civilisation, puis c'est une situation totalement dégénérée.
Pourquoi vous dites toutes les femmes sont prostituées?
C'est elle qui le dit.
Ah, c'est oui, elle qui le dit. À quoi elle voit ça? Pourquoi elle en arrive à tirer cette conclusion?
Ouais, c'est les bruits qui courent. Enfin, comme les bruits couraient sur les Indiens, qu'ils étaient tous cannibales. Eh bien,
je crois que c'est parce qu'elle a peur, tout simplement.
Oui, c'est lié quand même aussi à une certaine façon de vivre à ce moment-là et de peuplement lié à la colonisation.
Bon, ben c'est clair qu'on est dans un boom caoutchouc avec tout ce que ça comporte. Je veux dire, il y a l'opéra de Manaus, il y a les bas-fonds de Manaus, les bordels, bien sûr.
Donc on est dans un moment très fort de colonisation.
Et malgré le caoutchouc, je ne pense pas qu'on employait beaucoup la capote.
J'aurais dû la prévoir, celle-là. Et c'est le moment de la grande invasion européenne de l'Amazonie. C'est le début de toute l'histoire européenne.
C'est le début de la fin.
Colonisation,
enfin.
Voilà.
Oui, bon, c'est le moment où une cinquantaine de tribus ont disparu de la carte, où des milliers de personnes, pas seulement des Indiens, mais des paysans, des caboclos, non? Brésiliens ont disparu, sont morts. Je veux dire, le travail se faisait dans des conditions horribles. Bon, elle, la baronne, ne le voit pas parce qu'elle passe sur les fleuves. Les exploitations sont à l'intérieur des terres. Elle traverse ça sur son bateau à vapeur qu'elle a enfin découvert sur le paquebot. Et là, elle est en contact avec les hommes d'affaires. Elle redécouvre la lecture des journaux allemands. Donc, elle ne voit pas, mais ce qu'elle voit ou ce qu'elle sent, ce qui lui fait peur, c'est cette vie complètement débauchée.
Et ça, cet environnement socio-historique, vous aviez envie d'en parler dans l'exposition? Parce que finalement, c'est moyennement apparent dans l'exposition.
Non, je n'avais pas envie d'insister là-dessus non plus.
Elle aurait pu voyager à n'importe quelle époque, le personnage n'aurait pas changé.
Alors, voyager maintenant, c'était le boom de l'or, hein, dans la même région. Oui, puis elle aurait pu voyager, ça n'a pas changé sa vision.
Alors, je crois que ce serait intéressant, effectivement, qu'on rentre un petit peu dans les détails de la vie de cette baronne, qu'on en découvre un petit peu plus. Je vous propose que nous réécoutions un petit peu une chanson du groupe
Juaneco.
Voilà, si, entre-temps, j'espère avoir appris à le prononcer. Vous êtes toujours dans Onde Femme, Remue Ménage, Radio Zone 93.8 et nous sommes en compagnie d'Alain Monnier et Anne Grossenbachère pour évoquer l'Amazonie d'une baronne russe, exposition que vous pouvez découvrir au Musée d'ethnographie de Genève. Thank you. Dans quelques instants, nous poursuivrons notre conversation avec Alain Monnier et Anne Grossenbacher, histoire de découvrir, en fait, cette baronne un petit peu plus concrètement, mais surtout derrière les images qu'elle a prises et que vous pouvez découvrir dans l'exposition du Musée d'ethnographie de Genève.